Notre rapport au temps aujourd'hui est un peu chahuté. Nous devons reconnaître que le monde va changer, que tout un tas de choses que nous considérions comme étant du donné, les petits vents de printemps, le fait qu'il y ait des fraises, pouvoir avoir des litchis qui viennent de 12 000 km loin d'ici, de toutes ces choses, ben elles ne sont pas données. Ça, ça peut partir. Voilà, le monde n'est pas donné. Le monde, c'est 4 milliards d'années de co-construction et nous, on s'est co-construit en réponse à un environnement particulier. L'environnement va changer, nous allons changer aussi. Tout ça, ça change. Pantare, disaient les Grecs. Tout cool.
Chère auditrice, cher auditeur, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Machine à Sens, votre podcast 100% entreprise à mission. Au micro, j'accueille des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui nous racontent pourquoi et comment ils sont devenus entreprise à mission, les actions qu'ils ont mises en place ainsi que les conséquences qu'ils perçoivent. J'invite également des experts qui viennent nous éclairer sur des enjeux sociétaux. Vous pouvez également retrouver la newsletter hebdomadaire de La Machine à Sens, un concentré d'actualités, d'analyses et de décryptage avec un très léger tropisme pour les sociétés à mission. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast et également la newsletter. Aujourd'hui, je reçois Michaël Dandrieux. Michaël est un sociologue de l'imaginaire. A priori, votre niveau de curiosité a probablement déjà grimpé, mais il va continuer. Je l'ai rencontré lors d'une récente conférence dans laquelle j'ai découvert son concept, celui de l'habitabilité du monde. Alors c'est pas vraiment le mot qu'on prononce le plus au quotidien et pourtant c'est un peu lui qui détermine à quoi ressemblera notre lendemain. Vous mettez deux amateurs d'idées et de concepts dans une même pièce et ça vous donne un échange que j'ai vraiment hâte de vous partager. Michaël a une pensée élaborée et sophistiquée. Il convoque beaucoup d'auteurs et met en musique une argumentation très convaincante et percutante. Vous verrez que même son choix musical, assez génial au demeurant, est accompagné d'une explication conceptuelle. On aborde beaucoup de sujets, mais toujours en essayant de garder deux points en ligne de mire. Pourquoi l'habitabilité du monde est un concept clé et comment les entreprises peuvent en faire un sujet de questionnement pour leur stratégie et leur développement. Comme le dit Michaël avec justesse, nous sommes en train de déconstruire la capacité de la Terre à nous accueillir en tant qu'espèce. Je pense que ça mérite bien qu'on se penche sérieusement sur le sujet. Mais rassurez-vous, tout ça avec un peu de légèreté néanmoins. Sans plus tarder, je laisse place à notre échange. Bonne écoute. Bonjour Michaël.
Bonjour Vivien.
Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation de La Machine à Sens pour ce podcast de rentrée qui va être dédié à une thématique que j'ai trouvée hyper intéressante quand j'ai découvert un peu tes travaux sur l'habitabilité du monde. Mais on y reviendra au fur et à mesure de cet échange. Peut-être pour commencer, je vais te présenter et puis je te laisserai amender, corriger si je me suis trompé ou si j'ai oublié quelque chose de fondamental. Donc Michaël Dandrieux, alors comme tu l'as expliqué dans un podcast il n'y a pas très longtemps de manière ironique, tu fais une activité qui ne sert à rien, pour te reprendre.
Qui est donc luxueuse.
Tout à fait, puisque tu lis beaucoup de livres, tu étudies le phénomène du lien social par la sociologie, mais comme tu le précises, ta valeur est d'apporter une connaissance profonde sur l'être ensemble. Je trouve que c'est une très très belle formule. Donc bon, si c'est pas déjà clair, je le précise, tu es docteur en sociologie et tu t'es spécialisé dans la sociologie de l'imaginaire. Alors je m'aventurerai pas dans une définition et on y reviendra un peu plus tard dans notre échange. Parallèlement, tu as un petit passif dans le domaine de la tech, de ce que j'ai pu lire, assez lointain certes, mais qui t'a suivi dans ton approche de la sociologie.
Ne nous vieillissons pas quand même.
Certes. En 2005, tu as créé Eranos avec Stéphane Hugon, ton associé encore aujourd'hui. Donc Eranos, c'est un cabinet de conseil et de recherche, vraiment les deux sont importants, qui cherche à remettre les humanités au cœur de l'entreprise. Parallèlement, tu enseignes à Sciences Po, justement, sur un cours sur l'habitabilité du monde. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, cette question d'habitabilité du monde et du rôle des entreprises. Tu en as même fait un TEDx en 2021, une version un peu plus longue, et c'est là où je t'ai découvert d'ailleurs, lors de la dernière conférence de l'USI, au début de l'été. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Ah, tout est là.
Ah, parfait.
Je fais du vélo, la pâtisserie, voilà.
Ah. Oui, ça j'ai vu effectivement, la pâtisserie aussi. Alors peut-être pour commencer, on va partir directement sur ce concept d'habitabilité, parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle souvent de soutenabilité, de durabilité, mais beaucoup moins d'habitabilité. C'est ça qui a un peu piqué ma curiosité. Comment tu le définis ?
Avant d'en donner la définition, on va essayer de problématiser, parce que je pourrais donner la définition, une belle définition de l'habitabilité du monde. Ça n'aiderait pas les gens qui nous écoutent à savoir pourquoi ils devraient consacrer le temps qu'ils sont en train de consacrer à nous écouter, dans un moment dans lequel on a tous beaucoup à faire. Donc peut-être pour problématiser, il me semble que la question de l'habitabilité, c'est le problème des problèmes, c'est la question la plus importante à laquelle notre espèce aujourd'hui est soumise. Et en même temps, celui qu'on n'a pas envie d'aborder. Et ça, pour deux raisons. La première, parce que habitabilité, je pense que c'est un mot très compliqué, qu'on n'a pas envie de le prononcer, c'est une cacophonie. Je, d'ailleurs, pronostique lors de cet entretien, l'un ou deux, une fois, prononcera de manière mauvaise ce mot-là. Donc, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est dur à dire. Et puis ensuite, parce que ce n'est pas quelque chose auquel on a envie de se confronter. La question de l'habitabilité du monde, on pourrait la définir comme ça. L'étonnement sociologique, c'est pourquoi est-ce qu'une espèce irait mettre en péril les conditions du milieu sur lequel sa propre survie repose. Pourquoi ? Ça me fascine ce truc, pourquoi ? C'est ce qu'on tente de se produire. Hein. Si on, dans les grandes lignes, on lit un peu les rapports successifs des nombreuses instances scientifiques, politiques, écologiques, environnementales, etc., qui nous parlent. Et comment est-ce qu'on articule ça avec la question de l'habitabilité ? Ben, tout simplement parce que la version pop de cette question, pourquoi est-ce qu'une espèce irait maître, etc., c'est de dire, ben voilà, on a des humains qui sont un peu caca, parce qu'ils sont méchants. Et ils ont construit des machines à la fin du monde, les entreprises, le capitalisme, etc., l'excavation des matières fossiles. Et à côté de ça, on a une force positive, fantastique, matricielle, protectrice, qui est Gaïa, qui est cette belle planète Terre, nature idéalisée, une espèce de nature porn avec des longs cheveux sur lesquels viennent arriver à foison les blés, fruits de notre subsistance. Et ça, je pense que c'est une question qui ne devrait pas être posée, c'est-à-dire les humains, voilà, sont-ils mauvais pour la planète ? Parce qu'en réalité, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'une bonne planète. Et je ne suis pas sûr que Vénus, sur laquelle il n'y a personne, à ce que je sache, soit une moins bonne planète que la planète Terre. Donc en fait, ce n'est pas dit qu'une planète sans être humain, c'est une meilleure planète. Mais ça m'intéresse parce que quand on dit ça, on dévoile notre jeu. Si on veut savoir les humains sont-ils une bonne ou une mauvaise espèce pour la planète, on veut en réalité parler d'un truc tout à fait particulier. C'est une capacité spécifique de la planète que nous sommes en train d'abîmer. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est les humains sont-ils bons ou mauvais pour cette capacité spécifique de la planète et qui est la capacité de la planète à pouvoir nous accueillir. Ça, c'est l'habitabilité. La seule chose que nous sommes en train de déconstruire, c'est la possibilité de ce gros caillou de pouvoir accueillir une forme de vie spécifique qui est la nôtre. Et donc, l'habitabilité du monde, c'est une expérience particulière vécue dans un espace propice à la vie et qui semble nous inciter à y prolonger la nôtre. Cette définition que je tiens d'une jeune philosophe qui s'appelle Julia Colucci-Corté, on peut la découper de trois manières, ce qui nous permet de bien comprendre ce problème de l'habitabilité du monde. Qu'est-ce que c'est que l'habitabilité du monde ? C'est une expérience particulière vécue, donc en fait c'est quelque chose qui vient de moi. Et on a vu dans les derniers jours, là aujourd'hui il ne fait que 29 degrés à Paris, on a passé quelques jours à 40, 40,5 degrés.
Parce que là on enregistre, on est fin juillet.
Et on est dans un endroit climatisé, une dépense d'énergie, etc., qui va produire un îlot de chaleur à l'extérieur pour les gens qui marchent à côté de nous, auxquels nous pensons. Cette expérience, elle est très personnelle. Il y a des moments où c'est plus difficile de penser droit, de faire l'amour, d'aimer, de tomber amoureux, tout simplement parce que les conditions du monde deviennent difficiles. Donc une expérience particulière vécue dans un espace, cette habitabilité, elle est enracinée dans un territoire. J'ai reçu une notification sur mon téléphone aujourd'hui d'une entreprise de déplacement aérien qui me disait « si je n'étais pas prêt à laisser partir la chaleur, je pouvais aller vers un pays où il faisait chaud ». Je voudrais avoir une pensée émue pour la personne du marketing qui a pensé cette campagne, qui me disait « si tu n'as pas eu assez chaud pendant cet épisode caniculaire où on a battu littéralement tous les records des 10 dernières années, ne t'inquiète pas, tu peux aller à Grenade ». Et donc, dans un espace vécu, donc expérience, espace, et puis le troisième point, c'est-à-dire dans un endroit propice à la vie et qui semble nous inviter à y prolonger la nôtre. Et ça, c'est la question de l'espoir. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse, pour habiter quelque part, il y a un escompte de l'avenir. Demain, ça va aller, quoi. ce n'est pas que pour maintenant, mais si, ce n'est pas habitable un lieu où je vous dis, bah, vivez, il vous reste 45 minutes, puis je vous mets une balle dans la tête. Bon, bah, est-ce que je serais capable de tomber amoureux pendant ces 45 minutes? Serais-je le meilleur humain moi-même? Donc, ces trois E que je viens de mentionner, expérience, espace, espoir, sont la définition de la capacité d'un milieu à pouvoir nous accueillir. Et si je réponds dans la grande maille maintenant, pourquoi est-ce que c'est le problème des problèmes? Parce que cette capacité du monde de nous accueillir n'est pas un donné. Il est aujourd'hui chahuté par l'activité humaine, en grande partie. Et c'est un impensé, parce que si vous considérez que l'activité écologique de restauration du monde est faisable aujourd'hui, demain et après-demain, vous considérez que les conditions du monde dans lesquelles elles vont s'exécuter sont immuables, vous oubliez donc que la capacité du monde à nous accueillir est quelque chose qui peut changer. Par conséquent, il y a un angle mort à l'écologie qui est ici. Si les conditions du monde changent, l'activité écologique change. Par conséquent, il faut penser la capacité du monde à nous accueillir pour se rendre compte que peut-être notre activité de restauration demain sera plus difficile qu'aujourd'hui, du fait que les conditions dans lesquelles nous devrons les mener risquent elles aussi de changer. Donc l'habitabilité du monde, c'est le problème des problèmes, parce qu'il n'y a pas d'activité de restauration écologique, mais il n'y a pas non plus de développement d'entreprise, il n'y a pas de production de valeur, il n'y a pas de travail en commun, il n'y a pas de chansons, il n'y a pas d'enregistrement d'albums de musique, il n'y a pas de création artistique. S'il fait trop chaud, s'il y a trop de guerre, s'il y a trop de gaz, si vous mourrez de maladies de ceci, de cela. Tout ça, c'est possible dans un monde à des conditions particulières. Et nous considérons que ces conditions sont données, nous voyons aujourd'hui qu'elles ne le sont pas.
Alors, on reviendra sur les freins aussi à comprendre, tu l'évoquais justement, pourquoi une espèce viendrait à mettre en péril sa capacité à vivre telle qu'elle a toujours vécu finalement. Ce que je trouvais intéressant aussi dans ta pensée, c'est que pour toi, il y a un acteur qui est assez central en fait dans tout ça, c'est l'entreprise. Mmh. Ou les entreprises, il n'y a pas l'entreprise, mais les entreprises plutôt. Comment tu fais le lien entre les deux? Et pourquoi est-ce que justement tu mets les entreprises aussi autant au cœur de cette résolution possible d'être dans une planète habitable, sur une planète habitable?
Je pense que c'est pas moi qui le fais. Je pense qu'elles y sont et elles y ont été mises par la société elle-même. C'est marrant ce que tu dis. L'entreprise. Alors non, en fait, il faut dire les entreprises. On considère souvent, et on pense avec des évidences, donc en fait une entreprise, on sait ce que c'est, est-ce qu'on en parle, j'ai pas besoin de te la définir. La réalité, c'est qu'au cours de l'histoire humaine, l'entreprise, elle a beaucoup changé. Ça a été des modes de pilotage, de gouvernance, de rétribution, de production de valeur qui ont été très très différents. Et si on parle de l'entreprise aujourd'hui, en grande majorité, on va penser à un modèle économique qui date de Milton Friedman, et qui est cette entreprise au capitalisme d'actionnaire, dont le but est de produire de la valeur et de rétribuer les possesseurs du capitaux. Et ça paraît évident, en réalité ça ne l'est pas. Il y a eu des modalités de philanthropie très différentes au cours du 19e siècle pendant la révolution industrielle, dont on pourrait parler longuement. Sous l'Empire et la République romaine, il y a des modalités d'entreprise, les premières, les societas et les societas publicanorum, les sociétés dont le but est d'œuvrer comme une main de l'État, de la République, pardon, et ensuite de l'Empire, à faire des actions qui sont encastrées à l'intérieur de la société civile. Donc aujourd'hui, on a un type de boîte particulier, donc je pense qu'il faut parler d'entreprise aujourd'hui, et le type de boîte particulier qu'on a aujourd'hui, c'est des entreprises, un truc qui est entrepris par un certain nombre d'acteurs sur la base de, la plupart du temps, identification de besoins de société ou création de besoins de société. Moi, ce que je vois, c'est deux choses. La première, c'est que ces besoins aient été identifiés de manière juste ou pas, la réalisation des entreprises aujourd'hui du fait de ces outils, du marketing, de sa capacité de développement technologique, de sa capacité de conviction, de manufacture, du consentement, disait Edouard Bernays, est absolument immense. On est face à un acteur de la civilisation qui a un pouvoir de structuration de la vie en société qui est totalement délirant. Au point où on pourrait les comparer peut-être à une religion ou à des structures institutionnelles d'organisation publique. Je ne sais pas combien de pays ont aujourd'hui un PIB supérieur à ce que produit Apple, par exemple. Donc ce que je remarque, c'est qu'on a un acteur avec de grands pouvoirs. Et je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais je crois que c'est Peter Parker ou Oncle Ben. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, c'est tout bête, hein, mais c'est ça. Et aujourd'hui, on a, à côté de ces grands pouvoirs qui ont été développés par l'entreprise, des très très grands problèmes de société, immenses. Sixième extinction de masse, le problème de l'habitabilité du monde, un problème de transition énergétique dans lequel il faut trouver des modèles de justesse, tout ça soutenu par une crise climatique, des règlements généralisés, mais aussi une crise de l'attention. On a dans nos pays, et ça a été la partie du rapport qui a été remis par le NIC à Joe Biden lors de son investiture pour les grands enjeux de son mandat, des pays qui sont tellement polarisés qu'on n'arrive plus à les diriger. Donc aller faire passer une décision écologique dans un pays qui est grévé et qui veut se taper dessus. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et on a dans toutes ces crises-là besoin d'acteurs qui viennent et qui amènent et qui apportent et qui essaient de trouver des solutions. Et donc il se trouve que sans le vouloir, l'entreprise s'est hissée au rang de cette idée d'acteur de la civilisation qu'elle est capable de faire. Elle peut ajouter des produits dans un marché collectif, elle peut manufacturer des idées qu'on va ensuite manipuler, avec lesquelles on se balade, faire de la culture. La manière dont vous vous comportez à l'intérieur de votre entreprise autorise, permet des manières de se comporter à l'extérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Si vous le voyez là, vous allez le répliquer là. Par l'exemple, ça va se diffuser dans la société. Tout ça, ça produit de la subjectivité, donc des sujets, donc de l'être ensemble. Aujourd'hui, on a un acteur de la société muni d'immenses pouvoirs, on a des problèmes qui sont immenses. Il me semble que la société attend des entreprises qu'elles mobilisent ces forces de structuration, ces forces vives, ces capacités, ces capitaux économiques, mais aussi capitaux humains, capitaux de désir, pour pouvoir s'adresser, c'est un anglicisme, pardon, des problèmes qui sont des problèmes de société. Donc, c'est pas moi, véritablement, qui ai mis l'entreprise au milieu du village. Il se trouve juste que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, dont l'entreprise est en partie responsable, la forme qu'elle est, c'est-à-dire une forme qui peut nous échapper parfois. Je donne souvent cet exemple d'un régulateur qui, dans les années 2000, allait vérifier une entreprise qui faisait de la teinturerie de tapisserie et qui se rend compte que la rivière est polluée et qui dit « mais c'est impossible, je connais tous les gens de cette entreprise, personne n'aurait voulu la polluer ». Et c'est vrai, leurs enfants jouent dans la rivière. Néanmoins, l'entreprise, la forme, a échappé un peu de manière prométhéenne à ses maîtres. Donc, ma remarque, elle est bête. On a des problèmes extrêmement complexes. On a un outil, une organisation humaine extrêmement puissante. Il est tout à fait normal, et il me semble que c'est ce qui est en train de se produire, que la société civile attende de l'entreprise, est un escompte d'action de la part de l'entreprise. Et c'est ce qu'on voit de multiples manières aujourd'hui dans la société.
Il y a je ne peux qu'abonder dans ton sens. Il y a un élément que... Bon, c'est pas un élément, mais plutôt un discours qui persiste encore quand même dans le monde des entreprises. Alors là, je vais citer Alexandre Bompard qui était aux rencontres d'Aix, mais ça aurait pu être un autre aussi, qui considère que tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est pas son rôle. Lui, son rôle, et je le cite, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires, les salariés et l'ensemble du monde industriel. Comment on arrive à réconcilier le discours que tu tiens avec cette idée qui est une idée assez classique, finalement, presque friedmanienne, en considérant que tous les sujets de RSE ou autres, c'est quand on n'a pas le choix qu'on va les traiter. Tant qu'on ne nous impose pas, nous, on est très bien comme on fait. De toute manière, encore une fois, l'important, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires, les salariés et l'ensemble du monde industriel.
Oui, c'est un imaginaire. C'est pas une position qui... je suis pas opposé à cette position, je la partage pas. Je comprends très bien d'où elle vient. Je crois qu'il faut remettre juste dans son cadre les éléments de discours qu'on est en train d'employer là. La force de la sociologie de l'imaginaire, c'est d'arriver à voir que les acteurs, les agents de la société, toi, moi, cette personne qui parle à côté de nous, sont agis par un ensemble d'images qui structurent la société par le dessous. Certaines sont très profondes, elles sont très anciennes. Il y a un anthropologue qui s'appelle Gilbert Durand, dans les années 60, il disait il y a une positivité du symbole. C'est-à-dire que vous voyez une croix et vous dites « Ah bah oui, dans chaque civilisation, la croix, elle peut dire tout un tas de sens particuliers. » En fait, quand on les étudie toutes, on se rend compte que les humains attribuent le même sens à la croix. Donc en fait, il y a des symboles qui veulent dire des choses pour nous, les humains. Pourquoi ? Parce que de la même manière que nos mains se sont constituées de la même manière, bah, nos cerveaux se sont constitués dans une certaine mesure de la même manière. On partage une capacité d'attribuer du sens au monde qui nous entoure, qui est en continuité, dans une certaine mesure. Et puis, il y en a d'autres qui sont moins profondes et qui sont ancrées dans l'époque dans laquelle on vit. Et ce monsieur a été cherché dans cette idéologie friedmanienne, donc capitalisme d'actionnaire, cette image, cette idée, cet imaginaire selon laquelle, etc. Et il fait beaucoup de gens sont comme ça. Donc, ce n'est pas bien ou mal. C'est daté dans l'histoire. Et la question, c'est, grâce à la sociologie de l'imaginaire, de pouvoir faire un petit pas de côté vis-à-vis de notre culture et de l'interroger de l'extérieur et de dire tiens, est-ce que notre culture est encore en synchronicité avec le monde dans lequel on évolue? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments à questionner? Est-ce qu'on ne peut pas la modifier? Avec beaucoup d'humilité, parce que c'est très difficile de faire un pas de côté par rapport à soi-même. Mais là, regardez, petite étude éthique ou critique. Et moi, mon opinion serait que la réponse est oui. Je ne suis pas certain que ce soit l'imaginaire qui, aujourd'hui, soit en action de manière majeure, et surtout pas en gestation, de manière naissante. Si on regarde l'ensemble des dispositifs sociaux et techniques qui sont en train d'être mis en place, ils désavouent ce que ce monsieur dit. J'ai la chance d'enseigner donc à Sciences Po dans une école qui a été fondée en 2017 qui s'appelle l'école de management et d'innovation. Et la leçon inaugurale de Stigler était repenser la prospérité. Donc ça veut dire que dans les grandes écoles, il y a cette question qui est en train de se poser. On a eu comme dans la leçon inaugurale, sont venus des gens comme Gilles Boeuf, des écologues qui viennent à l'école de management et d'innovation, sont des masters de finance et de technique, voilà. Voilà, il y a des du côté de la régulation, il y a des systèmes de statut comme l'entreprise à mission. Vous avez des modes d'incorporation comme les fondations industrielles en Scandinavie. Vous avez des certifications comme les certifications B Corp. Ça bouge dans tous les sens. Donc en fait, le monde est en train de nous dire que ce type de pensée ne convient plus au fait de pouvoir rendre le monde habitable. Donc c'est pas mal, c'est juste pas ce qu'il faut faire. Donc la question c'est, est-ce que, c'est pas est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort, la question c'est relativement aux nécessités du monde, est-ce qu'on est en train de mettre en place la bonne réponse? Et moi je dirais qu'il faut être très modeste aussi par rapport à ça, il faut commencer par écouter ce qui est autour de nous, le milieu dans lequel on vit. Ce milieu il est constitué par trois grandes couches, d'abord les humains qui nous entourent, ensuite le non-humain, le vivant sur lequel notre existence repose, et puis enfin le reste du milieu, donc en fait le rocheux, le paysage qui est aménagé par nous, qu'on va quand même traverser et tout ça. Dans quelle mesure est-ce que cette réponse-là est en train de façonner, dans la mesure où nous, êtres humains, nous façonnons notre environnement, est en train de, notre milieu, on pourrait dire plutôt, l'environnement, c'est à la limite, ça n'a aucun sens de dire ça, hein, parce que c'est quelque chose dont on n'est pas part. On est en train de façonner notre milieu, et donc dans quelle mesure est-ce que cette idée est en train de le façonner d'une manière qui est avantageuse à nous-mêmes? Et je le dis de manière très bête, une entreprise ne peut pas contrevenir à l'habitabilité du milieu dans lequel évolue son marché et ses collaborateurs. Parce que si elle fait ça, elle tue son marché et ses collaborateurs. Et alors là, je mets ma casquette d'entrepreneur. Ça fait 17 ans que j'ai une boîte. Je ne peux pas créer un désert sur lequel je vais espérer que mon entreprise grandisse. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a un bon sens, mais qui est aussi un truc fantastique, puisque les êtres humains ne sont pas une espèce rationnelle. Il y a tout un tas de trucs, de l'inertie, de l'imaginaire, de mobilisation de catégories qui sont anciennes à nous-mêmes. Voilà. Donc je pense que c'est un bon moment pour se poser des questions.
Alors, avant d'en arriver justement à la phase de questions et de solutions potentielles, peut-être creusons un peu plus encore les différents freins, obstacles et biais, parce que c'est vrai que tu en as identifié un certain nombre. Alors, j'ai essayé de les collecter. Je ne les ai pas tous collectés peut-être, mais j'ai essayé de collecter un certain nombre de freins ou d'obstacles que tu as pu citer et que je trouve extrêmement intéressants. Alors, certains sont connus, d'autres peut-être un peu moins. Et je te propose qu'on fasse une espèce de petit voyage conceptuel au travers de ces différents...
On peut parler de trucs très concrets aussi. Je sais que les gens veulent des trucs concrets. On m'a averti qu'il ne faut pas être...
On va aussi faire des choses très concrètes. Hein. Les concepts peuvent amener à des choses très concrètes. Il y a un premier élément, et tu l'as déjà abordé tout à l'heure, c'est cette notion de temps. C'est cette notion que, en fait, on oublie que les conditions changent et que avec quand les conditions changent, eh bien la manière de réagir, la manière d'agir même change. Est-ce que tu peux élaborer davantage ce point-là?
Oui, mais c'est crucial. C'est crucial. La situation devant laquelle les dirigeants sont aujourd'hui, on peut la résumer de manière vraiment très simple. On est confronté à une urgence du long terme. On est très fort à réagir dans l'urgence, de manière réflexe. On peut modifier un business plan, une capacité de production, etc., assez vite. Et puis, le long terme, on a des planifications qui sont aussi assez bonnes. Mais le fait de devoir agir extrêmement vite, tout de suite demain, pour dans très longtemps, et en prenant en compte le long terme, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et que les entreprises ne savent pas faire. C'est pourtant ce qu'il faut faire. Il faut prendre des décisions, des arbitrages stratégiques, engager des budgets, de la masse salariale, etc., tout en gardant l'esprit 2030, 2040, 2050. Et ça, c'est une condition tout à fait nouvelle. C'est tout à fait nouveau, et la raison pour laquelle on n'est pas bon dans cette prise de décision, elle est double. La première, c'est parce qu'on n'est pas bon à se projeter dans le futur. Et chacun des mots est important dans cette phrase. On n'est pas mauvais à imaginer le futur. Et dans le futur, comme chacun le sait, il y aura des voitures volantes. Donc il y a ce futur-là qu'on peut imaginer, mais se projeter dans le futur, c'est une toute autre chose. Ça veut dire faire l'exercice d'anticiper l'avenir et de réaliser que lorsqu'on y sera, ce sera le nous-mêmes plus vieux qui y sera. Donc on aura un problème de hanche, un problème de diabète, on aura peut-être un cancer, etc. On aura perdu ses cheveux. Et la raison pour laquelle on n'est pas bon à faire ça, c'est tout simplement parce que ça vient matérialiser le fait inéluctable que nous avançons individuellement vers la mort. Donc on a un intérêt morbide à ne pas nous projeter dans l'avenir. Donc on n'est pas bon à travailler à 2030, à 2040, à 2050, parce que ça vient faire exister 2030, 2040 et 2050. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ce soir, avec mon épouse, nous allons acheter des tomates dans un magasin qui est juste à côté. Me projeter dans ce soir, ça me va très bien. Parce que de manière sensible, je serais resté le même. 2030, ben voilà, c'est dans 8 ans, j'en serai où vis-à-vis de mon poids, de mon diabète, voilà. Donc vous comprenez, il y a un blocage ici qui fait qu'on a une énorme tendance... Beaucoup de papiers se sont penchés sur le sujet, voir de manière déformée les goûts qui seront les nôtres dans l'avenir et à considérer qu'ils ressembleront beaucoup à ceux qu'on a maintenant. Voilà. On imagine qu'on ne vieillira jamais. Donc, premièrement, on n'est pas bon pour ça. Et puis, deuxièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous considérons que le monde est donné. Une série qui se répète un certain nombre de fois sans changer nous donne le sentiment qu'elle continuera à se perpétuer sans changer. Ces deux choses sont fausses. Nous avançons individuellement vers la mort et nous changerons entre maintenant et 2030. Et ce n'est pas parce que le 13 mars 2020, je vous dis que vous pouvez sortir et acheter du papier toilette, que le 18 mars 2020, vous pouvez sortir et acheter du papier toilette. Il y a des éléments clivants qui interviennent comme ça.
Petites choses.
Petits éléments qui modifient de manière dramatique parfois, et parfois de manière très douce, notre capacité à évoluer dans le monde. Donc il faut prendre en compte ces deux éléments, et c'est ce qui fait que notre rapport au temps aujourd'hui est un peu chahuté. Nous devons reconnaître que le monde va changer, que tout un tas de choses que nous considérions comme étant du donné, les petits vents de printemps, le fait qu'il y ait des fraises, pouvoir avoir des litchis qui viennent de 12 000 km loin d'ici, de toutes ces choses, elles ne sont pas données. Ça peut partir. Voilà, le monde n'est pas donné. Le monde, c'est 4 milliards d'années de co-construction, et nous, on s'est co-construit en réponse à un environnement particulier. L'environnement va changer, nous allons changer aussi. Tout ça, ça change. Panta, re, disaient les Grecs. Tout cool. Faut revenir à ça. Et puis aussi, nous, à l'intérieur de ça, dans le maigre espace de nos vies, 80 ans d'espérance aujourd'hui, j'espère plus, eh bien, nous changeons aussi. Il faut le reconnaître que, voilà, il faut aller avec la déclivité du terrain, disait mon vieux maître. Donc ça, c'est ce qui me semble être deux éléments qui ont l'air tout à fait bêtes, mais si on regarde la manière par laquelle on agit dans la vie quotidienne, on ne les prend pas en compte. Donc je pense que les entreprises sont aujourd'hui face, et les dirigeants, à cette urgence du long terme. Nous devons donc nous poser des questions sur les prises de décision stratégiques que nous menons en agissant tout de suite pour pouvoir sécuriser les collaborateurs, sécuriser les acquis, les assets, les capitaux, tout en nous mettant dans la perspective d'une transformation du monde qui interviendra en 2030, 2040, 2050. Et ça, c'est tout à fait nouveau.
Oui, c'est la question de l'adaptation aussi par rapport à tous ces changements, effectivement. Il y a deux notions qui sont, tout est très lié, hein, mais il y a deux autres notions que je trouvais intéressantes dans celles que tu as pu évoquer par ailleurs. Il y a la première, c'est celle, alors c'est comme l'habitabilité, hein, c'est pas facile à dire, c'est l'apotropaïsme.
Mais c'est exactement lui.
Voilà. Donc est-ce que tu pourrais le définir un petit peu ?
Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on n'a pas d'intérêt à penser la question de l'habitabilité du monde. Ce mot d'apotropaï, c'est une forme de pensée magique qui nous fait agir d'une manière qui va magiquement détourner le danger, mais qui crée chez nous une rente de confort moral. C'est un truc qu'on mobilise tous les jours, de pensée magique, tout le monde. Je vais donner quelques exemples dans la langue. En italien, pour dire bonne chance, on dit une bocca al lupo, dans la bouche du loup. Pourquoi on dit dans la bouche du loup ? Parce qu'une fois que je t'ai dit dans la bouche du loup, ce serait quand même pas de bol qu'un loup apparaisse et te mange, tu vois. Et donc l'idée de dire dans la bouche du loup, c'est que ça me permet quand même, puisque j'ai dit le pire truc qui puisse arriver, d'écarter de nous la pire truc qui puisse arriver. Comme si le fait de dire dans la bouche du loup réduisait statistiquement la probabilité que le loup apparaisse. On dit break a leg en anglais, on dit merde à un comédien qui monte sur scène, donc en convoquant la pire source du danger, on espère pouvoir l'écarter. Mais on agit aussi comme ça dans la vie quotidienne. Lorsque Donald Trump en 2018 annonce qu'il retire les États-Unis des accords de Paris, ce qu'il dit, c'est que puisque je retire notre pays des accords de Paris, cela veut dire que le réchauffement climatique n'existait pas. Donc, en agissant de manière magique dans le monde, on écarte magiquement la cause du problème qui est au bout de chemin. Donc, c'est de la pensée magique, c'est de la pensée analogique, tout le monde fait ça. Voilà.
C'est quand même fou quand on y pense. Hein.
C'est totalement fou, et pourtant, je renvoie à mon premier bouquin qui s'appelle « Le rêve et la métaphore », dans laquelle il y a toute une étude de cette pensée magique, pensée analogique, que nous, humains, mobilisons absolument quotidiennement, tout en pensant bien évidemment que nous sommes des individus totalement rationnels, totalement rationnels. On est des individus tellement rationnels que jamais on irait scier la branche sur laquelle on est assis, donc en aucun cas on est en train de produire les exactions sur le milieu qui est le nôtre. C'est impossible, car nous sommes des êtres rationnels, une espèce rationnelle. Voilà. Donc en fait, on pense de manière magique, etc. Donc c'est très fort, il faut le reconnaître et puis l'étudier, et ça c'est fait par plein de gens. Et donc ça s'appelle l'apotropaï, c'est-à-dire le bouclier, hein, la manière magique de détourner. Et cette manière magique de détourner, elle fait qu'on a un intérêt à ne pas regarder en face un monde faillitaire. Je vais essayer d'expliquer ça de manière très métaphorique, parce que quand je le fais comme ça, en fait, ça marche. Je fais ça avec mes étudiants, mais lorsque vous marchez dans le métro et que vous rencontrez un mendiant, un miséreux, quelqu'un qui demande des sous, vous faites, et je le fais aussi, et je pense que tu le fais aussi, et donc je me reconnais dans ce mode d'interaction avec mon prochain, je détourne les yeux. Je l'ai fait tout à l'heure, je suis venu en métro ici. Et j'ai détourné les yeux parce qu'en fait, j'avais autre chose de plus important à faire dans ma vie de métropolitain. C'est venir enregistrer un podcast et tout. Je suis ravi, ça m'honore, ça me flatte un peu mon ego. Je suis quelqu'un de vachement important, on est ensemble, tu m'écoutes, etc. Donc tu vois, je ne pouvais pas accorder 5 minutes à cette personne. Parce que si j'avais accordé 5 minutes à cette personne, en fait, il aurait fallu que je me fonde en elle, que je la supporte, que je la soutienne, que je lui demande pourquoi tu es là. Ce n'est pas un euro qui va te sauver, mais viens, dors chez moi, passe du temps, je vais te remettre dans un circuit. Est-ce que tu es un réfugié? Mais je connais les gens de Singar, on va pouvoir travailler ensemble, il y a un truc d'inclusion qui va se produire. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps. Donc, je détourne le regard. Je vais éviter de commisérer, donc de regarder cette misère parce que j'ai peur qu'elle me contamine, qu'elle me devienne. Et Lévinas disait, quand un visage apparaît, déjà, vous répondez de lui. Donc, je détourne le regard parce que je ne veux pas voir son visage, parce que si son visage apparaît, je réponds de lui. Nous sommes dans un mécanisme exactement identique avec les exactions que nous perpétrons sur notre environnement. Reconnaître que notre environnement est menacé, c'est répondre de lui. Or, si notre environnement, notre milieu est en faillite, alors nous répondons d'un milieu en faillite. Et répondre d'un milieu en faillite, c'est très, très, très difficile. On a donc un intérêt morbide à se construire des boucliers magiques qui nous éviteront de regarder le problème. Et c'est extrêmement problématique parce que ça vient chez nous jouer d'un effet vicieux sur notre cerveau, puisque plus ça va mal, moins on a d'intérêt à reconnaître que ça va mal.
Bah surtout quand on a une partie de culpabilité sur la raison pour laquelle ça va mal.
Absolument. Plus on est part du problème, plus on a un intérêt à s'écarter du problème. Et donc, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs dont le but est de ne pas. Donc, ce n'est pas des dispositifs positifs, négatifs, donc je ne fais pas ça. C'est un dispositif positif dont le but est de nous éviter d'eux. Et c'est en ça qu'on est vraiment une espèce formidable. Je pense que Netflix est la plus grande apotropaïe qui existe. Il y a des séries fantastiques sur Netflix, il y a des œuvres d'art.
Certes.
Mais le but de Netflix n'est pas que vous regardiez une série fantastique et que vous partiez faire autre chose dans la vie en déversant la connaissance, l'émotion que vous avez touchée. Ça, c'est le but d'Arte. Le but de Netflix, c'est que avant la fin du générique, vous cliquez tout de suite sur le bouton d'après, que vous ne regardiez pas le générique suivant pour cliquer tout de suite sur le bouton d'après, pour pouvoir enchaîner, de sorte à ce que vous soyez diverti. Cette diversion a pour but de ne pas nous amener à faire ce qu'on sait qu'on devrait faire, mais qui est très très difficile.
Il arrive quand même que parfois on agisse. et ça, c'est le dernier concept. Que je trouve hyper intéressant. Donc tu dis, en fait, on peut agir par anticipation, mais on peut également, et c'est souvent comme ça qu'on agit, par posticipation.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme?
Bah, oui, mais c'est quelque chose qui me fascine aussi. Nous, il semble, c'est une question que posait Philippe Descola dans « Par-delà nature et culture », qui est un bouquin qui est apparu en 2005 et qu'il faut lire. Parce que c'est un livre qui montre comment la nature est en fait une invention européenne du XVIIe siècle. Je laisse le pitch ici au milieu de la table. Hein.
Formidable.
Et voilà, il se dit, moi je m'interroge, je vois des espèces réaliser qu'elles vont au-devant d'un problème et je les vois donc anticiper et agir par anticipation. Et puis des espèces ou des communautés. Et par contre, je me demande parfois avec les humains si on ne peut pas dire que leur seule manière de réagir, c'est quand c'est trop tard. Donc je me demande quelle est notre capacité d'action par posticipation. C'est-à-dire, au moment où on est sûr qu'il fallait agir, là c'est bon, on met le dispositif en place pour pouvoir réagir. C'est pas de la réaction, c'est de la post-action en réalité. Et puis, en creusant ce truc, je me suis dit, oui, mais comment est-ce qu'on sait que c'est trop tard? Parce que si notre post-action a résolu le problème initial, alors c'était que c'était pas trop tard. La réalité, c'est qu'on a une bande d'action. Et que c'est très difficile de dire quand elle a commencé. Quand est-ce que l'écologie consciente d'elle-même, c'est-à-dire un propos écologique qui se dit écologique, c'est le début du siècle, mais en 1914, si ma date est bonne, Rudolf Steiner, qui était une espèce d'illuminé qui a produit le cours aux agriculteurs, disait on est en train de perdre la fertilité des sols. C'était il y a 110 ans, 108 ans, voilà. Donc on est dans une bande d'action, pas trop tard. Et donc, est-ce que vraiment on est, nous, en tant qu'humains, uniquement capables de posticipation? Et ça me ferait vraiment mal, parce qu'on a fait des trucs superbes, donc ce n'est pas le moment de foirer ce coup-là. Ou est-ce qu'on est dans cette bande encore aujourd'hui, et le fait de dire on va réagir trop tard, c'est en fait une manière d'accélérer cette action qui est déjà mise en place? Moi, je ne suis pas un pessimiste, parce que je pense que j'ai des arguments théoriques contre le pessimisme. Si la question c'est l'humain est-il en soi une maladie pour la planète et que l'accent il est sur les mots en soi, c'est-à-dire par nature, indépendamment de lui-même, ça veut dire. Et si la réponse est oui, c'est même pas la peine de se battre. Moi, je connais des bars à vin fantastiques à Paris où je vais aller passer la fin du monde avec mes copains. Puisque de toute façon, c'est collé à nous. Il me semble que ce n'est pas le cas. Il me semble que l'humain n'est pas en soi une maladie pour la planète. Il me semble que l'entreprise, comme mode d'organisation, a produit des déprédations sur son environnement parce que la forme particulière qu'on lui a donnée de manière datée dans notre civilisation est une maladie pour la planète et qu'un type d'être humain particulier, avec un type de subjectivité, un type de mythologie et de croyance, est une maladie pour la planète. Mais ce sont des types. Et nous sommes dans une époque, et une époque en grec, c'est une parenthèse, ça s'ouvre et ça se ferme, dans laquelle on peut penser de manière réflexive à un autre type d'entreprise, donc une organisation avec sa capacité de transformation du monde, et un autre type d'être humain. De sorte que, je viens de vous donner un argument contre le pessimisme. Il y a des endroits, si la réponse est oui, l'être humain est une maladie en soi pour la planète, alors on peut l'être. Si la réponse est non, alors c'est un choix. Et c'est pas très chic d'être pessimiste par choix. Jamais dans notre histoire de collective, on a eu tant besoin de se déprendre des certitudes. Je ne sais pas quoi mettre à la place de ces certitudes, mais je sais qu'il faut pouvoir les remettre en question.
Dans la suite de l'épisode, on revient sur cette idée de réencastrer l'entreprise au sein de la société. Alors effectivement, c'est pas une idée de Michael mais de Karl Polanyi, mais vous verrez, il lui donne un petit twist qui est assez intéressant et surtout qui permet aux entreprises de se questionner de manière assez subtile. Je te propose qu'on passe justement à cette partie d'un terme que tu utilises aussi, qui est de réencastrer l'entreprise dans la société. Ah, c'est pas de toi.
Ah, Karl Polanyi.
Et donc là, l'idée, c'est plus de justement de parler un petit peu des questions à se poser pour ouvrir les chakras et un petit peu les solutions auxquelles on peut réfléchir, les choix différents qu'on peut faire. Donc peut-être tout simplement là comme ça, celles qui te viennent, mais je sais qu'il y en a déjà que tu as déjà traité. C'est quoi les questions qu'une entreprise ou un dirigeant doit se poser pour justement participer à une meilleure habitabilité du monde?
Mais déjà, c'est ça. La première, c'est ça. Quel est mon produit dans toute son ampleur? Donc, si vous faites du Coca-Cola, vous pouvez imaginer que votre produit, c'est du Coca-Cola. La réalité, c'est que vous faites aussi de la culture, produisez des imaginaires du succès ou de la joie qui est leur fond de commerce, etc. Moi, je suspecte qu'on ne boive pas du Coca-Cola pour boire du Coca-Cola. Je suspecte que la publicité dans laquelle les gens boivent, et c'est extraordinaire, ils sont vraiment très beaux et il fait une chaleur, mais en même temps, ils sont quand même rafraîchis et tout, on est vraiment très content d'être là. Que cette publicité nous convainque de boire du Coca-Cola. J'ai rarement vu quelqu'un qui rentrait dans un magasin et dire « Oh, si je bois du Coca, je vais être comme ce type dans la pub. » Alors, les humains ne sont pas dupes. Par contre, ce que je suspecte, c'est qu'on boive du Coca-Cola afin de pouvoir rééprouver ce que la pub nous a fait éprouver. Donc cette liesse, ce sentiment de beauté qui était fait par un directeur artistique qui a filmé ça avec un filtre, c'est fantastique, etc. Et que donc, le vrai produit de Coca, c'est la publicité. Et non pas le Coca. Et que le Coca nous permet de replonger dans la pub. Ça veut dire que...
L'imaginaire de la pub, en fait.
Ouais. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser quel est mon produit en tant qu'entreprise. Mon produit, mes services, ma culture, qu'est-ce que je mets dans la société. Voilà. Donc, on va chercher la bande. Et la bande est large. Une fois qu'on s'est posé cette question, il faut se demander, est-ce que ce produit rend le monde plus habitable à ceux qui sont censés y vivre? Donc, si on dépense petit, les humains. Si on a un peu d'ambition, le vivant. Et c'est une question assez bête. Je veux dire, je ne suis pas en train de parler des choses qui sont vital, quoique cette catégorie était un peu chahutée pendant la pandémie. Le papier toilette est-il vital par rapport au livre, etc. Mais qu'est-ce qui soutient la production de la vie bonne? Qu'est-ce que la vie bonne? Et donc là, vous voyez, on est emmerdé parce qu'on est en train de parler d'entreprise et je fais rentrer une donnée éthique. Et là, ah, flûte, les entreprises, elles n'aiment pas ça parce qu'il n'y a Q1, Q2, Q3. Néanmoins, je suis convaincu que dans une situation de marché de raréfaction et de complication des échanges, augmentation des prix des matières premières, diminution du pouvoir d'achat, problème de valuation du produit qui se retrouve pris entre les deux, on ne peut plus faire l'économie de se poser la question de est-ce que mon produit, dans son ensemble, contribue à la vie bonne? Parce qu'en fait, on ne peut plus produire de la perte et la rejeter dans la communauté, dans la mesure où, pour les conditions que je viens de décrire, elle ne peut plus l'absorber. Donc, ma première question aux entreprises, c'est est-ce que mon produit... dans son ensemble, qu'est-ce que votre produit dans votre ensemble? Il y a tout un tas de trucs que vous faites et vous ne vous en rendez pas compte. Externalité négative, mais aussi externalité positive. Être dans une boîte, parler avec des gens, apprendre des trucs, se faire former par le voisin, le fait d'être ensemble, tout ça, c'est des externalités positives. C'est de la culture, mais c'est de l'emploi, c'est de la fierté, c'est de l'achèvement de soi. Enfin, c'est fantastique, ce truc. Organisation humaine qui fait ça. Et puis ensuite, est-ce que ce produit, dans son ensemble, dans son amplitude, rend le monde plus habitable à ceux qui sont censés y vivre? Et alors là, il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce que la vie bonne? Une vie bonne, c'est une vie qui ne peut être vécue sans la présence d'autrui. C'est une définition qu'en donne Judith Butler. Elle parle de vies qui sont des vies qui ne méritent pas d'être vécues, qui ne sont pas donc des vies bonnes. Elle parle à ce titre d'un truc formidable, elle parle des sans-deuil, donc des gens qui ne méritent pas qu'on les pleure. Donc on peut regarder leur vie, elle bien sûr pointe du doigt les réfugiés dont la traversée par la Méditerranée ne sont pas pleurés, et elle dit, voilà, ça c'est pas une vie qu'on considère être une vie bonne. Mais vous, les citadins, les métropolitains qui travaillaient avec vos petits costumes, etc., vous estimez, vous avez la vie bonne, très bien. construisons cette vie bonne pour tout le monde. Définissons ce que c'est. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pouvoir sortir l'après-midi avec les enfants, jouer, se faire plaisir, manger des trucs, être en relation avec la terre, comprendre ce que c'est que du raisin, comprendre ce que c'est qu'une saison, etc. On pourrait parler, Martin Heidegger, il a défini ça, c'est le quadriparti. Il définit cette vie bonne comme ça. C'est un petit peu complexe, mais dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir qu'on est bien là. Alors là, on est bien. Et à un moment, on est bien. On se dit, on est bien. Et c'est un truc très bête. Être bien là, être bien dans les conditions qui nous entourent, avec les personnes qui nous aiment, faire un truc qui a du sens pour nous, tout ça, c'est des revendications qui sont le minimum de ce qu'un être humain veut faire. Et donc, une entreprise, c'est quelque chose qui, par des moyens et des capitaux, contribue à rendre la vie bonne pour les humains et le vivant. C'est vraiment très bête. Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser, et surtout des leviers de valeur, des gisements de valeur, des relais de croissance qui se situent lorsqu'on arrive à voir ces questions. Nous, on a la chance d'accompagner des boîtes sur ces questions-là, qu'on n'aborde pas de manière théorique, parce que là, on le fait de manière très théorique, mais qu'on aborde, on sait, du levier de croissance, de la transfo, de la meilleure manière de répondre aux besoins des consommateurs ou sociétaires quand on travaille dans les milieux mutualistes, par exemple, de l'engagement des collaborateurs, sentir qu'on est bien à sa place. Toutes ces questions-là peuvent être posées de manière très simple et on peut y répondre de manière très simple. Le problème, c'est quand vous avez construit votre entreprise avec un logiciel, je disais cette expression, mais avec un imaginaire, on va dire, avec un ensemble de valeurs qui date de la révolution industrielle, de productivité, d'utilisation des forces de travail afin de pouvoir maximiser la productivité amenée par le capital en machines, en argent, en machin. Et c'est notre imaginaire. Je l'utilise, tu l'utilises, vous l'utilisez. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les entreprises à s'en déprendre pour aller créer une valeur tout à fait différente en se posant ces questions, parce que, ne l'oublions pas, une organisation humaine, l'entreprise, ne peut pas contrevenir à la vie bonne des collaborateurs et des gens qui vont utiliser ces produits.
Justement, c'est un point que je voulais qu'on aborde, c'est parce que tu parles souvent de l'imaginaire et du fait que c'est très difficile de se défaire de son imaginaire, de sortir de son imaginaire. Là, comme ça, quels pourraient être les deux, trois conseils que tu pourrais donner pour essayer de sortir de son imaginaire, même si, encore une fois, c'est extrêmement difficile?
Ouais. Je vais reprendre la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, ce truc d'encastrement là, de Polanyi, que je twiste un peu. Mais aujourd'hui, on a des entreprises qui, du fait de leur imaginaire, se sont octroyées la possibilité de se désencastrer de la société. Donc on a des boîtes dont le but, c'est de produire de la valeur. Je vais donner un exemple extrêmement concret. Je crois que je ne sais pas pourquoi, contre les gens qui s'est révélé récemment d'ailleurs, ont eu cette formidable idée de vous promettre la livraison des courses en 10 minutes.
Ah, je suis pareil.
Et donc ça veut dire que ça crée un imaginaire. Franchement, si on me livre mes courses en 3 heures... Je ne suis pas à la pointe de la techno. Le minimum, c'est qu'on me livre mes courses en 10 minutes, puisqu'il y a des entreprises qui le font. Okay. La stratégie, on la connaît, c'est celle de la livraison. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent. Celui qui a le plus gros VC va pouvoir écarter les acteurs qui sont à côté pour survivre pendant que les autres disparaissent, et puis ensuite remonter les tarifs pour pouvoir en fait aller chercher un business model qui est finalement rentable, inch'Allah. Quelles sont les externalités négatives de ce type de modèle? Il y en a qui sont très visibles, les dark stores, la précarisation d'un certain nombre d'emplois, etc. Mais aussi et surtout, la production d'une idée dans la société que vous pouvez vous faire livrer vos courses en 10 minutes. Et ça, c'est de la financiarisation. Mariana Mazzucato dit « finance, finance, finance », extrêmement prédatrice de l'environnement dans lequel nous vivons, qui est en particulier un environnement humain. Donc, quand vous désencastrez la fonction même de l'entreprise, de la société dans laquelle elle est, en ne vous posant à aucun moment donné la question « ça contribue favorablement ou pas à l'habitabilité de la ville, aux gens, aux machins, aux bidules », vous avez des trucs qui sont très prédateurs, des modèles très prédateurs. Donc, ça, c'est un exemple d'imaginaire. Et je voudrais être très clair. Je ne pense pas que les gens qui ont fait ces entreprises soient des méchants. Ça fait 17 ans que je bosse avec des boîtes, j'ai jamais vu de méchants. J'ai vu des gens qui étaient englués dans un imaginaire. Quel est cet imaginaire? Et là, je réponds à ta question. On peut lui donner un nom, moi j'appelle ça l'imaginaire possibiliste. Ce récit possibiliste, c'est un ensemble de valeurs qu'on se raconte et qui légitime le fait qu'on puisse se dire « c'est quand même une bonne idée les courses en moins de 10 minutes ». Comment on le définit, ce récit possibiliste? Il vous dit que tout ce qui peut être fait sera fait, puisque tout est possible, et que donc, c'est beaucoup plus avantageux, si c'est moi qui le fais, que quelqu'un d'autre. Il y a un entrepreneur américain qui le formulait de manière remarquablement comme un témoignage, si vous voulez, de cette manière de penser. Il disait, la question n'est pas reconnaissance faciale ou pas de reconnaissance faciale. La question, c'est reconnaissance faciale ou reconnaissance faciale responsable de ma boîte. Donc, toute la dimension éthique de quelles sont les conséquences de la reconnaissance faciale sur le fait que je me sens libre dans la ville, de pouvoir vivre furtivement, comme dirait Cynthia Fleury. Tout ça, c'est évacué. C'est pas la question. La question, c'est, de toute façon, ça sera fait, puisque tout sera fait, donc faisons-le. Cet imaginaire-là particulier, il faut qu'on s'en débarrasse. Il y a un philosophe norvégien qui s'appelait Arne Næss qui disait ça très bien, même si je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il a dit, mais en tout cas, ça, je suis en accord. Il dit « Toute innovation devrait être testée culturellement. » La reconnaissance faciale, c'est une inno. La question, c'est « Ça va peser comment sur notre manière de vivre ensemble ?» Donc, quels sont les conseils qu'on pourrait donner pour parvenir à se déprendre de ces idées qui nous engluent ? D'abord, reconnaître que ces idées nous engluent. On est le produit d'un imaginaire, on est une espèce de ventriloque de l'époque. Quelqu'un parle et nous, on bouge la bouche. Ces imaginaires, c'est un peu humiliant de dire ça, mais c'est malheureusement la réalité. Ce qu'on croit être à nous propres est en réalité un ensemble d'images qui sont disponibles, que nous allons mobiliser pour parler de l'époque. Moi, mon job, c'est de parler à 1000 personnes, de poser 1000 fois la même question et d'entendre 1000 individus absolument persuadés de me répondre de manière unique, me dire la même chose. Donc c'est pas mal, ça montre qu'il y a de la continuité dans la société, c'est une bonne nouvelle, on est d'accord. Donc reconnaître que déjà on est englué dans ce truc, et puis ensuite retourner le regard, se dire ah bah tiens, pourquoi je pense ça, d'où ça me vient, et changer les idées, reconnaître l'altérité, les modifier un peu, les chahuter. Et pour ça il y a des structures externes, nous chez Eranos on essaye de se structurer comme ce partenaire externe qui vient chahuter. Et des fois on nous dit vous êtes l'avocat du diable, vous me permettez de remettre de la perspective, vous m'enlevez le nez du guidon. Donc juste critiquer dans le cadre d'une controverse positive, pas du tout pour dire c'est mal, mais pour dire vous considérez que c'est une évidence, nous pouvons vous montrer que ça n'est pas une évidence. C'est un point de départ, on part de ce que vous pensez être sûr. Mais peut-être que dans votre contexte, en reproblématisant par rapport à vos enjeux, c'est pas sûr qu'il faut faire ça. Donc, aller chercher l'altérité. Il y a plein d'endroits dans lesquels aller chercher l'altérité. Je peux en donner trois. Les entreprises de conseil, hein, quand même, mais pas seulement. Si on est à titre individuel, on peut les chercher, dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Apprendre une langue, c'est réaliser qu'on peut penser différemment et que ça marche très bien. Voyager. Aller voir des gens qui vivent de manière tout à fait différente de vous et qui vivent très bien. Bah, c'est un peu humiliant parce qu'on se dit « Ah mais flûte, moi, mon morning routine, mon machin de truc. » En fait, bah non, il y a d'autres gens qui font… Voilà. Et lisez de la littérature. La littérature, c'est l'accès à de la fiction. Vous allez vous prendre au jeu. Il y a un autre monde qui est tout à fait possible et ce n'est pas le même que le vôtre. Ça, ça nous permet de… Voilà, poser sur nous avec beaucoup de bienveillance un regard… d'accompagnateur et de dire voilà on en est là, demain ça va changer, on peut peut-être changer. C'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. Mais je crois que jamais dans notre histoire collective, on a eu tant besoin de se déprendre des certitudes. Je ne sais pas quoi mettre à la place de ces certitudes, mais je sais qu'il faut pouvoir les remettre en question. Il existe dans notre espèce humaine une continuité de nos manières d'imaginer le monde.
Dans la dernière partie de l'épisode, nous revenons enfin, dirait Michael, sur la sociologie de l'imaginaire. Et également, vous découvrirez son coup de cœur musical et vous ne verrez plus jamais le premier album de Radiohead de la même manière. Alors je te propose qu'on passe à la dernière partie et on va parler un petit peu de la sociologie de l'imaginaire.
Enfin, j'ai envie de dire. Les gens sont venus pour ça quand même.
Mais je ne vais pas te demander de définir la sociologie de l'imaginaire, mais plutôt de la raconter au travers de Gilbert Durand, dont tu as déjà un petit peu parlé, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le père de la sociologie de l'imaginaire. Donc est-ce que tu peux expliquer qui était Gilbert Durand, comment il a un petit peu façonné sa pensée, le contexte dans lequel il a construit un petit peu sa pensée?
Oui, moite-moite. Alors, Gilbert Durand, c'est un anthropologue français qui est décédé en 2011, si je ne dis plus de bêtises, qui était un maquisard, un résistant de la première heure. C'est une chose qui est très très importante à ses yeux, qui était un étudiant d'un philosophe français qui s'appelle Gaston Bachelard, dont je recommande absolument la lecture, et qui est donc un héritier des études sur l'imaginaire. Et alors Gaston Bachelard faisait de la philosophie de l'imagination, donc il se demandait quel est le rapport que les êtres humains entretiennent à l'eau, au feu, etc. Qu'est-ce qu'un foyer, qu'est-ce que construire, qu'est-ce qu'une maison, qu'est-ce que la terre, qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce qu'un lac, qu'est-ce qu'une rivière. Et donc c'est très bête, hein, mais quand vous marchez à côté d'un lac et à côté d'une rivière, vous n'avez pas les mêmes émotions, et donc lui va interroger ça dans la lecture des poètes. Voilà. Donc on va dire, ah mais oui, mais ça c'est saugrenu, parce qu'en fait, je veux dire, c'est loin de nous. Et Bachelard dit, pas du tout, c'est les expériences que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous revivez aujourd'hui en marchant dans la forêt, en levant la tête, quoi. Le phénomène humain, c'est ça, c'est la confrontation à des choses extrêmement subtiles, et on est traversé par elles et lui, il va les interroger. Et puis, Gilbert Durand, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été captif de prison, on lui propose de prendre un poste à Grenoble, et on lui demande ce qu'il veut enseigner, et lui, il dit « je voudrais fonder une anthropologie de l'imaginaire ». Alors, je tiens cette anecdote de lui, il l'a raconté lors de la remise de la Légion d'honneur à Michel Maffezoli, je crois que c'était en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et il dit qu'à ce moment-là, on lui dit « mais voyons Gilbert, l'imagination, l'imaginaire, ben, ce n'est pas un phénomène social ». Il dit « écoutez, moi j'ai été prisonnier, et je suis resté longtemps en geôle, et je peux vous dire que l'imaginaire, c'est un phénomène social ». Donc il fonde ce truc, et il écrit un bouquin qui, je crois, paraît en 1961, qui a été réédité 18-19 fois peut-être chez Dunoz, et qui s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire », dans laquelle il prouve un truc très simple, c'est qu'il existe dans notre espèce humaine une continuité de nos manières d'imaginer le monde. Deux garçons, filles, humains, d'âge indéterminé, qui marchent dans la forêt, qui voient deux arbres, étrangement pensent à un truc, il y en a un qui dit à l'autre « mais c'est fantastique, c'est marrant, c'est parce que moi ça me pense à mon père, etc. » Oh, moi aussi !» Ah bon, mais pourquoi ? Parce que ça fait des millions d'années que arbre, racine, enracinement, dureté, croissance, étirement vers le ciel, etc. Donc tous ces trucs qui sont des idées qu'on a construites dans notre espèce, qu'on échange, qui sont engrammées, parce que nos cerveaux se sont co-construits, et ben elles sont en continuité les unes avec les autres. Il y a donc des structures anthropologiques de l'imaginaire. Au niveau de l'espèce, nous avons des images qui sont des images communes. Donc, ils fondent ce champ-là, qui donc devient la sociologie de l'imaginaire. Et moi, je suis un parmi des centaines d'autres de ces représentants-là. Je conseille toujours la lecture des bouquins de mon compadre Vincenzo Susca, qui est prof à l'Université de Montpellier III, Paul Valéry, qui lui est plutôt sur la question des médias, mais nous sommes légion, dont l'objectif est d'étudier au travers d'un prisme particulier les phénomènes sociaux, qui est donc moins la manière de penser rationnelle, objective, officielle, dite, mais toute cette partie de l'être humain qui est un peu cachée, un peu officieuse, un peu non dite. Et moi, ma conviction d'avoir été sur cette planète 42 ans à peu près maintenant, c'est qu'une plus grande partie des fondements et de la colle du lien social repose sur cette dimension imaginaire que sur des dimensions contractuelles. Je donne toujours ces exemples mais parce qu'ils me semblent très parlants. Qu'est-ce que ça étudie, la sociologie de l'imaginaire ? Ça étudie, je ne sais pas, par exemple, la confiance. Voilà, la confiance, c'est pas rationnel. La confiance, c'est exactement l'inverse de la rationalité. C'est « bon, on va voir, je te fais confiance, crache dans la main, tape là, on va voir ». Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te permet de faire confiance à cette personne ? Je ne sais pas, je l'ai senti, je ne sais pas, machin. Et c'est ton ami justement parce que tu lui as fait confiance. Les liens se créent sur ce pari qui est fait de s'engager dans une relation humaine que rien ne prédestinait. La promesse, je te promets que... Mais qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas me trahir ? Mais c'est justement parce que je t'ai promis et que je ne te trahis pas que tu deviens mon ami. La question de la foi. On a la foi tant que on ne nous a pas prouvé que le truc existait. Donc en fait, on est dans cette suspension. Le désir n'est pas son accomplissement. Et puis mon chouchou, la question de l'espoir. Je pense que les sociétés reposent, et leurs fondements mythiques sont cette dimension de l'espoir. Tu verras, il y a un autre truc, on ne sait pas, peut-être, allez, on tente. Et ce truc-là fait que ça colle à un moment donné. On a, par espoir de pouvoir nous échapper des barbares qui ont des chevaux alors que nous on a des trésors, rassemblés avec des paillasses et des rondins de bois, les 153 atolls de sable qui sont dans le début de l'Adriatique, ça se trouve ça passe. Merde, on a inventé Venise. Putain, 5 siècles après la Sérénissime, on possède Constantinople. Vous voyez, fondement de la société, la question de l'espoir. Et ça, il faut un mode, une pratique particulière, et c'est cette sociologie de l'imaginaire qui fait ça.
Formidable. On en arrive à la fin du podcast avec l'instant musical. Donc l'instant musical, c'est
coup de cœur. Je joue une chanson, non ?
Alors, pas besoin de la jouer. Ouais. Mais le coup de cœur musical de l'invité. Donc là, au choix. Soit un morceau qui vient en résonance avec le propos de ce podcast, soit quelque chose que tu écoutes en ce moment, ton dernier coup de cœur qui t'a marqué.
Moi, il y a un truc que j'ai jamais lâché. C'est un album qui date de 1997, que j'ai récemment acheté en vinyle, et qui s'appelle OK Computer, qui est un album qui est fait par un groupe anglais qui s'appelle Radiohead. Les gens jeunes aujourd'hui, je ne sais plus s'ils écoutent Radiohead, c'est très, très daté 90. Mais c'est pour moi le meilleur album de la fin du siècle. En particulier le premier titre, le titre qui l'ouvre, je me souviens du moment, de la lumière, de l'endroit dans lequel j'étais. J'étais dans une Toyota Break beige en revenant de la Fnac de Cergy-Pontoise avec un lecteur CD et des écouteurs de Game Boy. Et j'ai mis ce CD dedans et j'ai écouté ce truc et je me suis dit, le siècle est vraiment en train de se terminer. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment le premier titre s'appelle Airbag. C'est une espèce de signature d'adieu tout à fait lucide aux valeurs qui étaient les valeurs de la technologie qui commençait, dont on voyait qu'elle était en train de produire des effets négatifs sur qui on était, de nous écarter, de nous désencastrer de la société, de nous écarter de nous-mêmes, etc. Et en même temps, il y a un truc qui n'est pas fataliste, c'est-à-dire qu'on y va avec une forme d'harmonie extraordinaire. Un exemple très bête, mais dans Airbag, il y a un fond de violoncelle. Et pendant très longtemps, j'en ai voulu à Thom Yorke d'avoir choisi ce fond de violoncelle synthétique, d'avoir mis un truc synthétique. J'ai compris que c'est tout à fait fait exprès. C'est pour qu'on sente que ce truc synthétique nul, alors qu'on aurait pu mettre un fil harmonique derrière, soit synthétique. Donc, OK Computer, l'album en entier, Airbag, en particulier le premier morceau, un chef-d'œuvre musical. Pourquoi ? Parce que c'est l'irruption de la machine, du synthé, de la technique, à l'intérieur d'un monde qu'on avait laissé tranquille et analogique, et qui y va avec une très grande force critique en reconnaissant que cette technique est en train de nous déshumaniser, mais qu'il le fait d'une manière... ça mène de la confusion, c'est un album qui est très confus, qui est en même temps désenchanté, etc. Et qui, quand on l'écoute, procure un sentiment de réenchantement.
Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me donne une définition aussi conceptuelle et presque métaphysique de cet album que j'adore.
C'est du bon son, hein, c'est ça que je veux dire.
Il est exceptionnel, hein, un album exceptionnel. Enfin, là-dessus, mais parce que c'est vrai que c'est un album, enfin, de manière générale, Radiohead, c'est quand même une musique très désenchantée. Mmh. Mais tu y vois quand même une note d'espoir.
Oui, Airbag, c'est le cri de quelqu'un qui est dans une grosse Mercedes et qui réalise qu'un airbag lui a sauvé la vie. Il sort, il chante, il est heureux, il a une joie de vivre, il se rend compte que c'est le premier jour des derniers jours de sa vie, je ne sais pas trop quoi, et il y a une jubilation de l'existence, il y a une espèce de fébrilité humaine qui est là, enfin il y a un être humain total qui est en train de jouir de la vie absolue, et uniquement parce que son airbag l'a sauvé la vie, voilà.
Eh bien on va l'écouter. De terminer cet épisode, j'espère qu'un airbag ne viendra pas nous sauver de notre existence et qu'on trouvera un autre moyen. En tout cas, un grand merci pour cette discussion, certes conceptuelle, mais je pense justement aussi, c'est un peu l'objet de ce type d'épisode-là, d'ouvrir les chakras sur des manières de réfléchir un petit peu différentes. Je tâcherai de recenser aussi les différents auteurs que tu as pu citer pour les mettre dans les notes de l'épisode. En tout cas, un grand merci à toi. Et puis, j'espère que ton discours continuera d'être entendu par les entreprises.
Moi, j'espère surtout que les entreprises continueront à nous permettre de produire ce discours. Tu as raison, on a eu un truc un peu conceptuel. Néanmoins, je crois que pour faire avancer la machine, en particulier économique, on ne peut pas faire l'économie de pensée.
Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Miguel.
Merci à toi.
nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Alors j'ai une petite faveur à vous demander avant de vous laisser. Si vous avez aimé l'épisode, pourriez-vous, s'il vous plaît, lui donner quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify? Alors, sur Spotify, bizarrement, ça ne fonctionne que sur smartphone. Et c'est vraiment hyper important pour en améliorer le référencement. Par ailleurs, si vous avez des invités que vous souhaitez me recommander, que ce soit des entreprises ou des experts, ou si vous souhaitez échanger sur la société à mission, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet, lamachineasens.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.